Nous sommes votre radio de proximité, votre radio communautaire francophone qui compte plus d'une quinzaine de bénévoles et une dizaine d'employés. Nous sommes Acadie.
Il y a 25 ans, Chatham, Newcastle et plusieurs municipalités de la région fusionnaient pour devenir Miramichi. Pour revenir sur cet événement clé, je joins Gérard Picot, résident de Miramichi de longue date. Bonjour.
Bonjour, comment ça va?
Très bien, vous-même?
Ah, ça c'est pire.
D'accord. Est-ce que vous pourriez me parler de cette fusion qui a eu lieu il y a 25 ans? Vous étiez déjà dans la région de Miramichi à cette époque, donc comment vous avez vécu ça?
Ben, c'était plutôt un événement sans vraiment... c'est un peu difficile à dire parce que vraiment, c'était... comme on dit, je ne suis pas directement un natif de Miramichi, mais c'est plutôt des années que je suis ici. Et puis, nous avons toujours la coutume ici qu'en bon anglais, on y est étimpé avec l'acronyme CFA, qui veut dire en anglais « come from away ». Ça fait que tu peux être, tu sais, marié avec deux générations, et puis, mais si t'es pas originaire d'ici, tu viens pas d'ici. Mais, quand même, la majorité des francophones qui sont à Miramichi maintenant, tu sais, ils ont leur origine d'ailleurs. Mais à ce temps-là, c'était, je pense, un rêve plutôt du premier ministre de la province, Frank McKenna. Frank McKenna demeurait à Chatham ici. Et puis son rêve était de faire l'agglomération de tous les petits villages qui existaient sur la rivière. Parce que, tu sais, c'était d'un bord ou l'autre, c'était les intérêts d'un conseil de village qui était différent d'un autre. Puis, tu sais, ça se battait toujours. Puis, c'est vraiment la grande bataille, c'est entre les Irlandais et les Écossais. Les Irlandais sont plutôt situés à Chatham, puis les Écossais c'était plutôt situés à Newcastle. Ça fait qu'il y a toujours cette friction entre les deux communautés. Ça fait que le plus gros accrochement, si tu veux dire, pour la ville, la nouvelle ville, l'incorporation de la ville de Miramichi, a été justement ça. Mais, tu sais, aujourd'hui, on commence à sortir de cette affaire-là, parce que ça, c'était quelque chose qui appartenait aux plus vieilles générations. Maintenant, les nouvelles générations, tu sais, connaissent plus vraiment cette affaire. Après 25 ans, vraiment, c'est comme on dit dans l'histoire, c'est presque une génération. Et puis maintenant, je pense qu'il n'y a pas vraiment de arrière-regard de cette misère qu'il y a eu au début.
Mais est-ce qu'il y a encore une certaine rivalité entre les municipalités et surtout probablement entre Chatham et Newcastle?
Oui, absolument. T'sais, mais c'est plutôt la farce maintenant, c'est plutôt une blague. C'est rendu à ce point-là. Avant, ce temps-là, c'était quelque chose qui habituellement résultait dans les coups de poing, des batailles sur la rue ou quelque chose. Puis ça, c'est quelque chose aussi que les francophones ont bien suivi. Je veux dire, vraiment, honnêtement, les francophones de Miramichi, qui est une section de la population qui avait été vraiment mal servie. C'est par toute les districts scolaires, les conseils de ville et tout ça. Là, ça fait que, tu sais, il y avait des lacunes, là, ça c'est bien sûr.
D'accord. Pourriez-vous me faire un peu le portrait des francophones avant la fusion? C'est-à-dire avant 1995, finalement.
Oui, exactement. Mais c'est un peu bizarre parce que, tu sais, avant l'agglomération des petits villages, je pense que c'était plutôt connu comme c'était Beaverbrook, Bellefond, qui tenait les familles francophones de cette région. Puis, tu sais, je me sers de ce titre, peut-être un peu exagéré, là, mais tu sais, il y en avait bien sûr, mais tu sais, on regarde comme la communauté de Chatham Head, qu'est-ce qui est connu aujourd'hui comme le borough, là, tu sais, le petit sous-secteur de Chatham Head, où est-ce qu'il y avait vraiment un tapon de famille avec des noms comme Martin, qui est connu comme Martin. On connaissait des familles comme c'est épouvantable, les Leblanc qui étaient des White, tu sais, les Roussel qui étaient des Russells, tu sais, ça continuait comme ça. Mais la majorité des francophones qui s'identifiaient comme des francophones, qui étaient plutôt comme à Beaverbrook, Bellefonte, dans cette région-là, qui étaient un peu sortis de la ville, qui étaient encore pas vraiment partie de l'agglomération de la ville de Miramichi. Mais avec la construction en 84 du carrefour communautaire Beau-Soleil, avec l'incorporation de l'école de maternelle à 12e année, à ce temps-là, à 12e année, avec le centre communautaire, avec le théâtre, la médiathèque Père-Louis de la Montagne, qui a été une grosse injection dans le bras de la communauté francophone à Miramichi. Parce que, tu sais, on regarde là maintenant les familles fondateurs, les fondatrices de ce coin-là. Ça fait qu'avant l'incorporation de la ville de Miramichi, c'était un peu, tu sais, c'était des petites bastions ici, là. Après, maintenant, là, tu sais, les francophones ont pris plutôt leur position dans la communauté. Avec, tu sais, si on regarde à l'histoire, on voit vraiment, on peut tracer les familles jusqu'au 17e siècle. Qui faisait partie des familles, les premières européens, on pourrait dire, qui est venu s'établir à Miramichi. Et puis ça, on voit c'est un point que j'étudie, et puis je commentaire, j'écris pas mal dessus.
D'accord. Pour revenir un peu à la fusion d'il y a 25 ans, est-ce que, selon vos propres observations, c'est une bonne chose pour les francophones qu'il y ait eu cette fusion-là?
Oui, absolument. Oui, parce que c'est ça, ça fait une collection, tu sais, où est-ce que peut-être avant les familles, ou dont les familles qui s'identifiaient, puis tu sais, je parle aussi des familles exogames, tu sais, qui s'identifiaient un peu comme francophones, qui ont, tu sais, peut-être des moins d'1% de la population. Maintenant, la population francophone de Miramichi est plutôt dans les 8, les 9, les 10% de la population de la ville de Miramichi. En dehors, par exemple, là, ça commence à augmenter. Si on regarde dans les communautés comme Baie-du-Vin, puis Baie-Saint-Anne, puis Nigouac, puis tu sais, là, ça, Rogersville, là, ça commence à grandir le pourcentage. Mais, à part de ça, oui, ça a été, je pense que ça a été quelque chose de très positif pour les francophones de Miramichi.
Est-ce que vous pensez que le conseil municipal de Miramichi l'aurait plus favorable que, par exemple, les conseils municipaux à l'époque de Chatham ou Newcastle?
Oui, absolument, oui, absolument. Parce que maintenant, ils s'aperçoivent que, tu sais, un des directeurs du carrefour communautaire a fait un sondage, une étude sur... puis c'est quelque chose qui s'applique vraiment aux anglophones, mais c'est parce que eux sont la vaste majorité de eux sont eux qui appartiennent les business à Miramichi. Mais avec les études qui ont été ordonnées par Sylvain Malençon, qui était le directeur général du Carrefour communautaire Beau-Soleil à cette époque-là, c'était une étude pour voir exactement c'était quoi le pourcentage de dollars. L'argent, la vraie argent qui était dépensé au business de Miramichi vis-à-vis les dollars dépensés par les anglophones de Miramichi. Puis les résultats de cette étude ont été vraiment étonnants parce que là, c'est là où est-ce qu'on s'est aperçu que pour chaque dollar anglophone, c'est qu'on parle de la vaste majorité, 90% de la population anglophone, c'est pour chaque dollar anglophone, il y avait un dollar égal qui était dépensé par les francophones, qui commence à parler vraiment, on se place la main dans la poche à ce point-là. Là, maintenant, ça donne plutôt d'une puissance économique, une force majeure quand on parle à la dollar. C'est là où est-ce que les business ont commencé à s'ouvrir les yeux que, ah, OK, c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse. Tu sais, on va maintenant engager les commis qui sont bilingues. Tu sais, on va mettre des enseignes, des affiches dans le magasin ou dans la business qui s'attire aux francophones. C'est comme ça que vraiment cette réalité s'est venue à fait aperçue.
Vous m'avez dit tantôt que vous avez jeté un coup d'œil à l'histoire du 17e siècle,
oui,
etc. Vous m'avez fait tout un portrait selon quoi Ben, si je me base sur ce que vous me dites, la situation des francophones à Miami-Chi s'est quand même grandement améliorée au cours même des 30 dernières années. Maintenant, qu'est-ce qui reste à faire pour les francophones de Miami-Chi? Qu'est-ce qui est la prochaine étape?
Ben, la prochaine étape, c'est vraiment... moi, je dirais, ben, c'est qu'en grosso modo, là, qu'on pourrait mettre le doigt sur le point exact. C'est plutôt de l'intégration dans la communauté. Qui se fait plutôt comme un arrière-regard, que c'est on les a à la table pour la discussion. Tu sais, que les sondages sont ce secteur de la population est inclus. Puis tu sais, on parle aussi vraiment de la population autochtone qui est incorporée là-dedans, qui est une autre force majeure dans cette communauté. Mais c'est plutôt pour continuer sur cette vague. Puis c'est puis c'est difficile des fois parce que les francophones, tu sais, on veut pas causer des vagues, on veut pas causer des perturbations, mais en réalité, il faut s'imposer dans l'affaire, dans l'histoire et puis dans les décisions de la ville et puis les communautés.
Bien, c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
OK. Je souhaite que tu es capable d'apprendre un peu d'informations.